Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés pour notre petite revue hebdomadaire, ou en tout cas, on essaie de faire quelque chose au moins avec vous toutes les semaines et sinon tous les 15 jours. Alors aujourd'hui, on aimerait parler un petit peu de ce qui se passe, bien entendu, sur les marchés financiers et de ce qui nous semble être en devenir, c'est-à-dire une crise de liquidité. Alors, je vais amener le sujet par la chose suivante, c'est que le vendredi dernier, s'est passé une assez forte correction sur les marchés, que ceux qui suivent auront remarqué. On a eu un Nasdaq composite qui a chuté de 4,2%, le S&P qui a reculé de 2,64%. Ça a touché aussi bien les valeurs de semi-conducteurs qui étaient en pleine ascension, ça a touché les orifères, par exemple le Van Eck Gold Miners qui a chuté de 8,75. Ça a touché aussi le Bitcoin qui a été à son plus bas niveau depuis 18 mois, ce qui vit un moment un peu difficile. L'or lui-même a perdu 3,7%. L'argent a perdu 8%. Les obligations américaines qui sont mesurées dans un ETF iShares 20 ans Treasuries ont perdu 50 points de base, ce qui est quand
et
même...
Et ça, c'est très étonnant parce qu'en principe, quand les marchés baissent, quand autrefois, les obligations montaient parce que les gens avaient la trouille. Et donc, ça prouve une fois de plus que les obligations américaines ont perdu leur capacité à être antifragile. Tu vois, c'est un élément important. C'est-à-dire que logiquement, les obligations auraient dû monter là, elles ont baissé.
Je pense que dans un monde où Donald Trump, dans la même semaine, nous explique que potentiellement, quand il aura fini cette guerre en Iran, il se verrait bien les bottes de cul de Cuba... plus la dette américaine qui escalait, on se trouve effectivement dans un temps où les gens se disent « Mais finalement, écoutez, si ça vous fait rien, les obligations américaines, j'en ai bien assez comme ça, si ça fait rien à personne. »
Donc,
une idée. Donc, la question qui se pose aujourd'hui est celle de la crise des liquidités. Pourquoi ? On vient de l'évoquer, cette guerre autour du détroit d'Ormuz, cette guerre en Iran, a fait que beaucoup de nos pays, beaucoup des pays américains, beaucoup même la Chine, ont vécu pendant tout ce temps-là sur leurs réserves. Leurs réserves qui étaient constituées aussi bien sur l'alimentaire qu'en stock énergétique. Et ce stock de réserves s'est épuisé, s'est amoindri au fur et à mesure, ce qui est bien normal. Mais un jour, il va falloir le reconstituer.
Il faut dire que quand vous vivez sur vos réserves, eh bien, quelque part, comme vous achetez pas de pétrole pour remplacer des réserves, ça fait monter la quantité de dollars. Et donc, l'utilisation des réserves par les pays ajoute pendant un petit moment au stock de liquidités. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a plus de pognon parce que les compagnies pétrolières reçoivent du fric, puis elles ne le réutilisent pas, quoi. Elles n'ont rien à faire avec. Donc, il va falloir à un moment que, on refasse des réserves. Et donc là, ça va bouffer de la liquidité, quoi.
Voilà. Et ça, plus le fait qu'il va arriver un moment où tout ce bassin autour de Beyrouth va à un moment ou un autre, autour d'Israël aussi, devoir se reconstruire, plus aux États-Unis, il y a un moment où on va devoir refaire des stocks de munitions. Donc tout ceci est extrêmement énergivore en termes de liquidité et va forcément drainer ce potentiel de liquidité. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On nous explique qu'il va y avoir, et ça va être le point qu'on va développer maintenant, des introductions en bourse comme on n'en a jamais vu auparavant, à savoir Anthropic, OpenAI et SpaceX. Alors, j'aimerais revenir sur les plus importantes levées de fonds qui avaient jamais été réalisées lors d'introduction en bourse. Dans le passé, la plus importante reste celle d'Aramco,
était la grande société pétrolière saoudienne qui avait levé, je crois, 28 milliards, je sais plus.
25 milliards. Et elle avait abouti grâce à Mohamed Ben Salam El Saoud, qui avait personnellement aidé chaque famille à bien remplir.
Oui, il y avait ça, et ensuite comme...
Les formulaires de souscription.
Il y avait le fonds souverain d'Arabie Saoudite qui avait été obligé de l'acheter parce que dans le fond, ça ne suscitait pas l'enthousiasme des foules, quoi.
Alors, il y avait Alibaba aussi qui avait levé 14 milliards de dollars, ce qui était quand même l'une des plus grandes introductions en bourse au monde, mais ça remonte à un moment où la Chine était encore perçue comme un pays cool et passionnant. Oui, cette époque a existé.
Et les 14 milliards avaient été pris dans le monde entier parce qu'ils étaient très contents d'acheter ça et c'était pas cher.
Voilà, et je pense que les gens ont dû être plutôt contents de ce que ça a fait pour eux. Mais là, il est donc clair que pour nous, les espoirs d'Anthropic, OpenAI et de SpaceX de lever chacune près de 100 milliards de dollars constituent une valeur aberrante par rapport à ce qui a été réalisé auparavant.
Enfin, je ne sais pas aberrante, mais en tout cas, complètement inhabituelle. Surtout que depuis 3-4 ans, les sociétés comme Microsoft rachetaient sans arrêt leurs titres. C'est-à-dire que le flottant des titres existants cessait de baisser. Et là, on vous l'augmente d'un seul coup de 300 milliards de dollars. Ce qui, bon, je sais, maintenant, mais on en parle, tout le monde parle en millions de milliers de dollars, je ne sais plus quoi, en trillions, j'en sais rien. Mais enfin, 300 milliards de dollars, c'est quand même beaucoup de pognon, quoi.
Ce qu'il faut voir, c'est que c'est absolument sans précédent. Ils ont pour objectif de lever jusqu'à 85 milliards de dollars pour une valorisation de 1750 milliards de dollars, soit environ 100 fois son chiffre d'affaires.
100 fois le chiffre d'affaires.
SpaceX est de loin la plus grande introduction en bourse que le monde ait jamais connue. Et cette introduction en bourse intervient à un moment où les grands fonds souverains du Moyen-Orient ne sont pas susceptibles d'être des investisseurs de référence.
Et même d'Asie, si tu veux, tu peux dire que, compte tenu des développements nécessaires en Asie pour l'énergie, tu peux penser qu'ils ont autre chose à foutre que d'acheter des trucs aux États-Unis, quoi.
Alors, il semblerait que dans la logique de cette introduction en bourse, l'objectif des promoteurs de SpaceX, puis d'OpenAI et Anthropic, c'est de les faire entrer d'abord dans le fonds indiciel du Nasdaq,
oui.
Puis dans ceux du S&P 500.
Le S&P 500, ça prendra du temps parce que d'abord, ils n'aiment pas le niveau. Ensuite, ils trouvent que ça n'a pas duré. Le S&P n'est pas coté, c'est une affaire privée. Et donc, si vous voulez, ils font très attention à la qualité de leurs indices. Le Nasdaq étant coté, il a tendance à prendre tout ce qu'il veut rentrer et à prendre des conditions qui ne devraient pas être prises. Or, ce qui se passe, c'est un vrai scandale, c'est qu'il va introduire 5% de son propre fonds, enfin de son propre de SpaceX, et que ce soit valorisé à 15% dans le Nasdaq. C'est-à-dire qu'il essaye de faire une manipulation pour que les fonds indiciels soient obligés d'acheter son truc.
En fait, ce qu'il essaie de faire, et ça c'est clair, c'est que les flux passifs soient le levier sur lequel les investisseurs actifs compteraient pour faire grimper encore davantage les cours de cette société. Donc en fait, quelque part, vous savez, les gens de nos jours, et nous les premiers, on achète un ETF, on achète un indice. La plupart du temps, les ETF achètent... Enfin, ça dépend, vous en avez des différents. Mais... Et donc, ce qu'ils se disent, c'est qu'on va rentrer dedans et puis...
Les gens seront obligés d'acheter. Et en plus, ce qui est effrayant, c'est que vous n'avez que 5% mis dans le marché, mais 15% dans l'indice. Ça peut monter jusqu'à 15%, ça veut dire que les fonds indiciels seront obligés d'acheter des titres qui n'existent pas. Il n'y en aura pas assez pour eux, donc il y a quelque chose qui ne va pas du tout là.
Et l'autre chose, c'est que la plupart du temps, les sociétés, quand elles rejoignent un indice de référence, elles rentrent avec une capitalisation qui est comprise entre 20 et 50 milliards de dollars, et puis elles gagnent progressivement en importance. Mais là, en rentrant avec une capitalisation aussi importante, ça veut dire que pour être acheté, il va falloir vendre la plupart du temps d'autres choses, des autres composantes de l'indice.
Oui.
Donc ça, là, littéralement, ça,
il y a un effet d'exclusion.
Voilà, donc les autres référents de l'indice ne vont pas être... Voilà, et ça crée une espèce de...
On en a souvent parlé ici, la gestion indicielle, sauf si vous achetez des indices très précis, des ETF, c'est quelque chose qui est... Plus c'est gros, plus j'en achète. Mais c'est quelque chose qui est idiot, parce que la bonne gestion, c'est quand même d'acheter quand c'est pas cher et de vendre quand c'est cher. C'est pas d'acheter quand c'est gros, en espérant que ça deviendra plus gros. Donc la gestion indicielle, c'est une gestion par de momentum. Plus ça monte, plus j'en achète. Et ce que essaye de faire, qui est un bon matheux, notre ami Musk, c'est que lui, il essaye de dire j'en rentre, je fais 50 et je dis qu'en fait, je fais 5 et je dis qu'en fait, j'en ai mis 15. Donc ça force les gens à aller jusqu'à 15, ce qui n'existe pas. Donc c'est vraiment une tentative délibérée de manipuler les marchés pour essayer de faire monter son titre.
Alors, ça pose une autre question, parce que si l'on envisage effectivement un scénario dans lequel les investisseurs vendraient Microsoft, Oracle, Alphabet, Meta et d'autres pour faire de la place à SpaceX, Anthropic, OpenAI, comment les équipes de direction, des premiers, vont réagir à la chute des cours de leur action? Parce qu'on le sait très bien.
Ils vont faire des augmentations de capital massives pour empêcher celle-là de réussir.
Bah, Ils sont pas plus cons que mal habillés. Et il y a un moment, à partir du moment où ils sont rémunérés tous dans la Silicon Valley par des actions de leur propre société, ils vont pas voir d'un très bon œil de se faire.
Oui. Et puis
sauter du bon.
Et en même temps, si vous voulez, vous êtes un investisseur qui a beaucoup de dollars et qui se dit ben, « je vais peut-être acheter SpaceX parce que j'ai trop de dollars, donc ça vaudra toujours quelque chose ». Mais en même temps, c'est tellement évident que il est en train d'essayer de vous enfler que vous vous dites « est-ce que j'ai envie d'y aller ?» quoi. Et d'après les rumeurs qui courent, pour l'instant, SpaceX, ça se place pas tellement bien. Hein.
Alors... Tout ça est important parce que dans une crise de liquidité, si on se retrouve...
Il y a deux choses. Là, il y a une crise de liquidité qui se dessine, mais il y a aussi des soupçons que les gens qui contrôlent ces grandes sociétés sont en train d'essayer de manipuler le marché pour en tirer des avantages personnels.
Alors, c'était gênant. Allons-y, parce qu'effectivement, ce week-end, on a eu le président Trump qui a fait un tweet ou je sais plus quoi, une communication, bref, pour dire oui, en tant qu'État américain, il est nécessaire qu'effectivement qu'on prenne des participations, qu'on soit actif sur des dossiers comme OpenIA, Anthropique.
Donc il faut que l'État américain prenne des actions.
Voilà, comme si déjà on n'avait pas une espèce de consortium qui parce que si on regarde le momentum, là, l'instant, on a toute cette Silicon Valley, tous les blogs, tous les réseaux, tous ces gens qui sont dans un univers très concentré, qui détiennent beaucoup de fonds et qui font le moment, et qui expliquent qu'on ne peut pas passer au travers, qu'on est dans un temps qui nous oblige quelque part tous à être avec Anthropique, et c'est une espèce de prophétie autoréalisatrice.
Mais moi, je regarde l'intelligence artificielle avec beaucoup d'intérêt. Ça me paraît de plus en plus comme une tentative d'expliquer aux gens qu'on n'a pas besoin d'eux, que tu vois, on n'a pas besoin de travailleurs, qu'on n'a pas besoin, qu'on va remplacer ça par des machines. Et que donc, dans l'histoire du capitalisme, ça a toujours été qu'on faisait travailler des gens mieux. Pas qu'on allait les remplacer.
Oui, ça c'est...
C'est quand même, on est en train de nous expliquer qu'on va nous faire une société où on n'a pas besoin de travailleurs, ce qui est complètement crétin.
Alors ça c'est la vraie fragmentation et ça c'est le vrai problème auquel il faut faire attention. Et c'est là où moi j'ai toujours une gêne vis-à-vis de quelqu'un comme Elon Musk, en ce qu'il rejoint parfois un certain discours de M. Piketty, qui est de dire nous allons faire un monde composé de crétins sous-diplômés que l'on va nourrir de testicroustis, qui regarderont Netflix toute la journée, et à qui on donnera une espèce de revenu universel composé de 3000 euros à 5000 euros. De toute façon, l'argent qu'on vous donne n'étant pas tellement important, puisque c'est ce que vous pourrez acheter ou non avec. Donc, dans un monde fictionnel, ça peut être à 5000 euros, mais si vos baskets sont à 2000, ça fait une belle jambe d'en avoir 5000, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, où, quelque part, vous vivrez de façon...
subsidiaire.
Voilà. Et le top 1% aura, lui, le droit d'envoyer ses enfants dans les bonnes écoles et ainsi de suite. Ce qui veut dire qu'il n'y aura absolument plus d'ascenseur social, il y aura absolument plus de mobilité. Et la seule façon de... Vous aurez peut-être, et encore, un gamin brillant de temps en temps qui arrivera à faire une percée, mais
C'est-à-dire que vraiment, on arrive à un moment où les gens je vais essayer d'expliquer ce que je pense, mais les dirigeants d'entreprise, on est en train de leur expliquer qu'ils vont enfin pouvoir se débarrasser de leur personnel. Et donc, ils sont en train de liquider. Ils sont tout heureux à l'idée qu'enfin, ils vont pouvoir virer tout le monde et que ça va permettre de faire monter le bénéfice par action. Ça me paraît d'une bêtise foudroyante parce que, encore une fois, l'intelligence artificielle, c'est des gens qui vont chercher à la vitesse de la lumière des informations qui ne font partie de la mémoire, mais à aucun moment de la création. Ça peut te donner des idées de création, ça te permet de tester des hypothèses plus rapidement, mais ça n'est pas de l'intelligence, quoi. L'intelligence en anglais... Faut pas, c'est eux qui l'ont créé. L'intelligence en anglais, ça veut dire Intelligence Service, ça veut dire la compréhension des phénomènes. Mais ça ne veut pas dire l'invention, ça ne veut pas dire la création, ça ne veut pas dire... Donc, on est en train d'essayer de faire naître une grande peur, comme on en a fait pour le Covid, comme on en a fait... Tu vois, c'est une grande peur de plus. On voit ces gens qui nous dirigent, dans le fond, ils doivent se dire, si on leur fout la trouille avec l'intelligence artificielle, ils vont peut-être enfin devenir dociles, quoi. Pour moi, ça fait partie de ces grandes peurs qu'on nous met les unes derrière les autres pour à chaque fois nous amener à être dociles. Mais ne soyez pas dociles, qu'on aura toujours besoin d'un jardinier. On aura toujours besoin. Ils m'emmerdent parce que, dans le fond, ils méprisent l'homme. Ils méprisent l'homme. Ils méprisent le petit.
Revenons à cette histoire aussi d'introduction en bourse réussie de SpaceX, qui amènerait donc à une valorisation de 1750 milliards de dollars. Ça libérerait potentiellement une richesse au sein d'un groupe d'investisseurs assez concentré, dont la plupart sont quand même regroupés autour de la Silicon Valley, ce qui donne quand même des incitations énormes.
Et de la CIA et de...
À tout ce groupe de personnes de s'emparer de ce storytelling et de nous en rabattre les oreilles. Il y a quand même...
Mais regardez, vous avez les mêmes qui vous parlaient du Covid... Je vous signale que l'intelligence artificielle est arrivée juste à point pour remplacer le réchauffement atmosphérique.
Non, parce qu'on regarde quand même qu'aux États-Unis, Larry Ellison détient désormais CBS, s'apprête à acquérir CNN, et Jeff Bezos est propriétaire du Washington Post.
Oui, et qui possède la presse française ?
Dassault, Drahi...
Arnaud...
Voilà, donc...
Oh, Bolloré, on l'oubliait, pardon.
Et aussi, les banques d'investissement devraient engranger au moins 800 millions de dollars. C'est la commission grâce à l'introduction en bourse de SpaceX. Donc ça fait des incentives quand même assez redoutables pour mener à bien des projets et regarder ailleurs si toutefois on le devait.
Oui, donc bon, réfléchissons deux minutes dans cette hypothèse qu'ils cherchent à nous faire peur. Alors, si toi tu es un petit peu d'épargne et que tu te dis « ils vont me remplacer et je vais être viré »,
moi, attends, j'ai pas peur d'être remplacé par OpenAI, c'est pas la question. J'ai peur de me faire enfler dans une introduction en bourse avec un cours de bourse qui ne représente pas.
Si tu y croyais, toi tu y crois,
imaginons, alors je crois à OpenAI, je pense que Claude est incroyable, et ainsi de suite.
À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes le titre. Tu vois, tu achètes le titre en disant, comme ça au moins, s'il y a des gros profits à faire. Sur mon dos, si je l'ai le titre, je l'ai...
Non, mais alors, tu sais très bien que les gens qui raisonnent un peu comme ça, qui disent Total fait des super bénéfices et ainsi de suite, ne vont pas acheter le titre Total. D'abord, ils ne savent pas où, ils ne savent pas faire la différence de la tête de leur cul.
Oui, mais si t'es un employé de un haut niveau et tout, tu te dis, ce que je veux dire, c'est que cette histoire de l'intelligence artificielle, j'avais lu.
Oui, mais j'ai l'impression de retrouver on a fait une émission sur la crise de 29 et sur le temps qui avait amené cette crise de 29 dans le mental des gens. Et j'ai un peu l'impression de retrouver la même structure, c'est-à-dire une espèce de décorrélation par rapport... Parce que c'est une chose de jouer des sociétés en disant, Viva Kraft fait des bons fromages.
Ce que tu dis, c'est important, c'est-à-dire que... je l'ai expliqué dans un ou deux de mes livres aussi, mais j'en arrive à penser que nos sociétés aujourd'hui sont contrôlées par une espèce de plutocratie.
Voilà, c'était mon point tout à l'heure.
Et que ces plutocraties engendrent des peurs chez nous, dans lesquelles ils investissent pour continuer à... Et que c'est plus un monde concurrentiel. Et j'en veux pour preuve quelque chose qui me trouble, c'est que d'habitude, les profits des sociétés américaines, ça représentait entre 6 et 10% du PIB, tu vois, année après année. Et depuis 10-15 ans... C'est monté à 14-15, tu vois. C'est-à-dire qu'on voit bien que la classe dirigeante a monté un monde oligopolistique dans lequel il y a des grandes sociétés qui sont littéralement des monopoles et qui traient le public de façon éhontée, quoi. Et ça aussi, ça participe de la fin de la démocratie, quoi. C'est-à-dire que nos démocraties représentatives ont été capturées par des groupes de pression. Et c'était un peu ce qui s'était passé aussi au début, dans la crise de 1929, où il y avait eu aussi des tentatives de prise de monopole et tout. Donc, J'ai l'impression que là, il y a de plus en plus de monopoles, il y a de plus en plus de peurs, et les deux sont parfaitement reliés, et tu vois ça dans l'augmentation des bénéfices et dans la baisse des salaires, quoi. J'ai l'air d'un marxiste.
Non, mais il y a aussi autre chose, c'est que, à force, OpenAI, le Meta X, à force de drainer tous ces capitaux, ils font apparaître aussi les autres comme des quasimodos. Et est-ce que ça n'est pas aussi une façon de tuer la concurrence ?
Ah, mais tout à fait.
Parce que tu es Alphabet, tu es Meta, tu te retrouves... Alors, ils pourraient, évidemment, ces sociétés comme Alphabet et Meta, faire appel à leur endettement ou faire des appels différents. Mais ce qui fait qu'à force de, à force que le momentum soit dirigé vers Anthropique, vers...
En fait, ce qu'on leur permet... Il y a d'autres choses qui se passent. Si tu veux, c'est quelqu'un comme Apple, je crois, a acheté plus de 240 sociétés qui auraient pu lui faire concurrence. C'est-à-dire qu'ils ont un tel pouvoir d'achat avec leurs titres qui sont surévalués qu'ils voient arriver un petit gars qui a fait une invention quelque part, qui les embête, ils l'achètent, ils ferment.
C'est exactement ce qu'avait fait Hermès sur toute sa ligne.
Voilà.
Pour faire en sorte qu'il n'y ait plus en France aucun producteur de cuir, de peau de porc et ainsi de suite. Et ensuite, ils ont fait quelque chose malin, ils ont racheté tous les fermoirs.
Oui.
Ce qui fait que quand tu voulais des fermoirs de qualité pour faire un sac, tu ne trouvais plus le fermoir. Donc, il fallait aller en Espagne, il fallait aller en Italie pour retrouver ses qualités.
Donc, c'est un coût qui est assez connu, c'est que tu achètes, toi, tu as une société qui a 40 fois les bénéfices, tu achètes à un gars, dans le fond, qui vient de lancer son affaire et qui est content parce que d'un seul coup, il se retrouve multimillionnaire, donc il dit, c'est très bien, j'ai vendu ma boîte, à 20 fois, et du coup, ton titre monte, parce que comme tu as acheté à 20 fois et que toi, tu es à 40, c'est accrétif au bénéfice par action, et donc... Moi, ce qui m'affole aujourd'hui, c'est la montée des oligopoles et des monopoles dans nos économies.
Je suis tout à fait d'accord.
C'est ça qui est très dangereux. Et donc, il faut qu'on ait un Theodore Roosevelt qui avait cassé ce qu'elle appelait les Robbers Baron à l'époque, les Bill Gates de l'époque, qui les avait cassés. Il faut réintroduire partout des législations anti-monopoles. Casser les monopoles.
Et ce qu'on voit arriver là dans la Silicon Valley, on retrouve cette époque d'avant Roosevelt, d'avant la crise de 1929, avec des mentalités sur lesquelles viennent se greffer maintenant Trump, donc les pouvoirs publics américains, et on se demande à quoi jouent tous ces gens-là, parce que très honnêtement...
Mais tu vois monter à ce moment-là des types comme le maire de New York, etc., qui sont des réactions populistes, et il y a quand même quelque chose de très curieux qui se passe, c'est partout dans le monde, tu vois monter une réaction des peuples en disant... Regardez par exemple en Suisse, qui est le pays qui a le mieux marché depuis 25 ans, les meilleurs résultats, tout ça, ben, ils sont en train de faire passer un référendum ce week-end, qui va être très important, pour limiter la population, limiter l'immigration, etc., alors qu'ils vont très bien. Donc les Suisses se disent, c'est pas tout d'aller bien, il faut aussi qu'on soit gouverné par nous-mêmes. Mmh. On sera pas gouverné par ces corneaux. Donc partout... Dans le fond, on est en train d'arriver au rêve du capitalisme de connivence, c'est-à-dire un accord parfait entre les pouvoirs publics, le pouvoir judiciaire et leur maître économique. Et c'est une honte.
Le top 1%.
C'est une honte. Et ils nous font tout ça au nom de la démocratie et de la liberté du marché.
Alors, sur les semi-conducteurs, je voudrais juste dire que on a eu Broadcom, pour ne pas le citer, a perdu 450 milliards de capitalisation boursière, ce qui ébranle un petit peu le storytelling, et c'est important, qu'il n'y en aurait pas assez pour tout le monde. Et c'est d'autant plus important qu'on va arriver assez vite dans un moment où la Chine va faire ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire du semi-conducteur en masse et pour tout le monde.
Et pas cher.
Donc, cette histoire...
Aussi curieux que ça paraisse, toutes ces tentatives de contrôle par des oligopoles dans nos pays...
Ne viennent pas.
Ils ont un ennemi.
Bien sûr.
C'est la Chine. Aussi curieux que ça paraisse, si j'ose dire, les ennemis des peuples aujourd'hui sont chez nous, et ceux qui peuvent casser ces monopoles, c'est la Chine.
D'où les grands storytelling du Washington Post pour nous expliquer que la Chine va envahir Taïwan demain... Et tout le toutim aussi.
Et que c'est un monde communiste abominable où les gens crèvent de faim dans la rue et tout, tu rigoles. Donc, il y a des choses qui se passent dans dans nos mondes qui sont loin d'être démocratiques.
Alors, notons aussi quand même que avant que l'IA ne vienne changer le monde, les crypto-monnaies étaient la nouvelle tendance. Mmh. Mais ce qu'on peut dire, c'est que depuis novembre dernier, les crypto-monnaies ont perdu 2150 milliards de dollars de capitalisation boursière, dont 600 milliards depuis la mi-mai. Ce qui soulève la question de savoir si la destruction de richesses dans une partie du portefeuille des investisseurs réduit leur propension à prendre des risques ailleurs et créant un effet de contagion sur les actifs à forte croissance et à haut risque.
Ben oui, c'est toujours pareil. C'est, pour que les gens fassent des bêtises en bourse, il faut qu'on leur raconte que c'est nouveau, que vous allez voir ce que vous allez voir, ça va changer le monde dans l'avenir et tout. Il y a 3 ans, c'était le Bitcoin qui était nouveau. Et maintenant, c'est l'intelligence artificielle. Donc, tous ceux qui courent derrière le prix pour le succès sont obligés de vendre leur bitcoin pour acheter de l'intelligence artificielle. Quoi. Mais ça ne veut pas dire que le bitcoin est une mauvaise chose. Ça veut simplement dire qu'il est passé de mode.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Alors, ça veut dire déjà, est-ce que l'environnement d'investissement a changé ? Oui, je crois qu'on peut dire que nous sommes désormais dans un contexte de hausse de rendement et des prix de l'énergie. De plus, au lieu de restituer des capitaux propres aux actionnaires, les grandes entreprises demandent désormais des liquidités aux investisseurs en actions. Et cela intervient au même moment où la demande de liquidités est énorme à tous les niveaux.
Voilà. Alors là, je voudrais faire un petit développement rapide. Si vous voulez, c'est que vous vous dites, on va essayer de raisonner comme ça, pas grande masse. Hein. Vous avez l'intelligence artificielle qui aura besoin d'énormément d'énergie. Donc, il va falloir investir des milliers de milliards de dollars en... Bon, ça va prendre du pognon, tout ça, c'est bon. Puis après ça, vous avez le développement de la zone de Valéry-Pierry, vous savez, les 4000 km autour d'Hong Kong, des millions de dollars. Puis vous avez l'Inde, qui a un énorme besoin d'infrastructures et d'énergie, millions de dollars. Rebâtir tout le Moyen-Orient, millions de dollars. Et puis refaire toutes les lignes de communication qui vont de l'Asie du Nord vers l'Inde, etc., que les rues sont déjà bien bâties, mais enfin, il y a encore des millions de dollars à faire, les ports, les routes, les hôpitaux, etc. Bon. Et donc, vous vous dites, il va falloir que, pour que cet investissement augmente, tous ces investissements, il faut que l'épargne augmente. Bon. Mmh. Bon. Mais pour que l'épargne augmente, il faut que tu la payes. Or, aujourd'hui, les taux d'intérêt chez nous sont en termes réels à zéro. Donc, personne ne va épargner plus pour investir à zéro, tu vois ce que je veux dire. Donc, il va falloir que les taux d'intérêt réels montent à 2, 3 ou 4 pour attirer, pour que les gens consomment moins et épargnent plus pour payer tous ces trucs-là. Quoi. Mais si les taux réels montent à 2, 3, 4 %, ben, la France, les États-Unis et l'Angleterre sautent.
Alors, on rappelle en réel, c'est-à-dire la différence entre les taux d'intérêt courts et
le taux d'inflation.
Et le taux d'inflation, c'est-à-dire véritablement le vrai taux d'intérêt tel qu'il est perçu. Parce qu'aujourd'hui, la Banque centrale, on l'a vu avec Madame Lagarde, nous explique, oui, on va monter les taux, vous rendez compte, c'est incroyable, on monte les taux, mais avec une inflation qui est galopante, en réalité, à la fin de la journée, on se retrouve exactement de là où on était parti.
Donc, il va falloir que l'argent se mette à coûter quelque chose, vraiment, pour que les gens épargnent. Mais nous, on dépense des centaines de milliards d'euros, je ne sais plus combien, partout en Espagne, en France, en Italie, en Angleterre, aux États-Unis, pour faire des transferts sociaux ou des armes ou des trucs qui ne servent à rien. Mais donc si d'un côté vous avez les taux d'intérêt qui montent très fort parce qu'il faut construire des routes, des ponts et des hôpitaux là-bas, ben, les gens vont dire qui sont les gens là-bas, ceux qui épargnent, c'est eux, c'est pas nous. Donc les gens qui épargnent, ils disent « je vais l'investir dans mes routes, mes hôpitaux, et je ne vais plus prêter au système social français ». Donc, pour moi, ce qui est tout à fait évident, c'est qu'on voit arriver une... Vous me direz, ce n'est pas nouveau, c'est ce que je répète depuis un certain temps, mais maintenant, compte tenu de toutes ces demandes, on voit arriver une pénurie d'argent pour ceux qui le gaspillent.
Et c'est exactement ce qu'on disait en début d'émission, c'est-à-dire qu'on a vu les corrections sur les marchés vendredi et des obligations d'État américaines qui, elles aussi, chutaient, alors que normalement, la tendance, elles auraient dû monter. Ce qui rejoint ce que Charles dit, c'est-à-dire que malgré tout, autour du monde, les gens se disent non, on ne peut plus prêter à ces États sont trop dépensiers, les États-Unis ont aussi une dette incroyable, lancent des guerres, on veut tu en voilà où sont les gens raisonnables, ne font absolument pas ce à quoi ils s'étaient engagés. Monsieur Trump, on ne sait pas vraiment comment il raisonne. D'où ça part, où ça va, enfin grand mal, enfin bon.
Il a été raisonnable jusqu'en avril 2024 et depuis avril 2025, l'an dernier, et puis depuis avril 2025, c'est du grand n'importe
et
quoi.
Et force est de constater qu'ils vont perdre probablement les midterms qui arrivent.
Mais je ne sais pas s'ils vont perdre parce que les démocrates sont dans un état.
Mais, sont dans un état pas possible, mais tu sais, avec une inflation qui va reprendre, les gens vont se dire. Et de toute façon, à la fin de la journée, ils risquent de se retrouver avec un état qui va plus être des masses gouvernables pendant un temps.
En tout cas, ils risquent de perdre soit le Sénat, soit la Chambre des représentants, soit les deux. S'il prend les deux, mais s'il n'en perd qu'un des deux, il est cuit.
Parce que de toute façon, plus rien ne passe. Ils vont se retrouver avec des government shutdowns, en veux-tu, en voilà, comme à chaque fois qu'il y a des chambres qui sont.
Mais en plus, si vous voulez, il y a quelque chose qui me fait très peur, c'est que il y avait 11 bases militaires en Moyen-Orient américaine. 11. Eh bien, elles ont toutes été évacuées. Il n'y a plus de troupes américaines au Moyen-Orient au sol. Tu peux dire que la base militaire de Bahreïn, qui était l'immense base américaine où il y avait toute la flotte qui était là pour contrôler. Il n'y a plus personne, il reste un chien et deux ou trois soldats qui font. Donc, maintenant, il y a les Houthis là, qui ont annoncé qu'ils fermaient l'arrivée, vous savez, pour le...
Du détroit d'Hormuz ?
Pour le canal de Suez. Ça fait 18 km de large aussi. Donc ils vont fermer ça à tous les bateaux israéliens. Puis ensuite, ils vont dire aux bateaux israéliens et leurs alliés. Donc, on nous expliquait que les États-Unis, avec leurs bases partout, ils avaient 900 bases dans le monde. Mais maintenant, toutes les bases américaines sont vides. Et tout le monde a été ramené aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui empêche l'Iran d'aller envoyer quelques troupes pour prendre le contrôle de Bahreïn, puisque Bahreïn, la population est chiite, et le king, le roi, est sunnite. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans une position géopolitique extraordinairement facile. Si on bloque le canal de Suez... Alors là, tu peux dire que le pétrole, je ne sais pas où il va le pétrole, mais en tout cas, c'est. Et il faut à ce moment-là faire le tour de l'Afrique.
Oui, non, mais tu te rends compte.
Mais ça augmente beaucoup les frais.
Et puis sans compter que les tankers qui passent par le canal de Suez sont des bateaux beaucoup plus petits que ceux qui peuvent faire le détour de l'Afrique. Donc ça veut dire aussi que la flotte maritime, c'est plus la même quand tu dois faire.
Et donc je suis là, je regarde toutes ces choses-là et je me dis, mais dans le fond. Tous ces bateaux, les 12 porte-avions et tout, les États-Unis ont dépensé des centaines de milliards de dollars. Ça sert à rien, leur base. Ça sert à rien. Donc, on a vécu sur l'idée que on n'avait pas besoin de faire de dépenses militaires parce que les États-Unis allaient les faire pour nous. Mais maintenant, les États-Unis nous forcent à faire des dépenses militaires dont on sait qu'elle ne sert à rien.
Oui, et par ailleurs, je reviens à cette histoire de crise de liquidité, encore une fois.
Mais oui, que ça, c'était du pognon.
Alors, nous, États européens, on va devoir se remettre à acheter de l'armement et ainsi de suite, ce qui, encore une fois, va prendre des liquidités.
Mais bouge pas,
d'autre part.
En plus, ils nous forcent à acheter de l'armement américain dont on sait qu'il ne marche pas.
Qui ne marche pas, mais bien sûr. Pour faire une guerre, laquelle ?
Donc,
Non mais parce que encore une fois, c'est la grande idée. Parce que on nous explique toujours que l'Europe c'est la paix. Et effectivement, on peut dire que de 1860 à 1946, on avait deux problèmes, le nationalisme et cette satanée Allemagne. Oui. Et en général, la Grande-Bretagne arbitrait le tout. Et ça s'est mal terminé pour nous. On s'est mis sur la gueule suffisamment de fois, 1870, 1914.
Et on a donné le pouvoir aux Américains. Bon, c'est fait.
Voilà, c'est fait. Oui. Et arrive à ce moment-là cette grande idée de dire ah ben, on va faire un grand consortium européen. De Gasperi arrive, Adenauer, Jean Monnet, bon, avec les histoires qu'on connaît pour les uns et les autres et l'implication de la CIA. Et on s'est dit, on va réussir à faire ça en faisant une espèce d'intégration européenne, parce que le grand souci, c'est les Français et les Allemands qui se mettent sur la gueule. Bon. Aujourd'hui, encore une fois, j'ai l'impression qu'on est en train d'essayer de répondre à un problème qui n'est plus, avec les solutions d'hier, en nous disant « vite, vite, il faut qu'on s'intègre un peu plus européennement, parce que vous comprenez, l'Europe, c'est la paix ». Tu te dis « mais je vous assure que nos Arabes vont pas aller taper sur les Turcs, hein, allemands ».
Non, d'abord, l'Europe, c'est pas la paix, puis ensuite, on voit monter partout… en Hongrie, le nouvel élu, là, en Pologne, un peu partout, les gens veulent être gouvernés par des gens qu'ils ont élus et pas par des gens qu'ils n'ont pas élus, et des cours de justice. Donc, on voit s'effondrer cette espèce d'ordre complètement artificiel où des cours de justice extraterritoriales décident de ce que les Français ont le droit de faire dans leurs frontières. Mais tout ça, c'est fini. Donc, c'est-à-dire tout le mythe de l'histoire est fini. Vous savez, c'était la fin de l'histoire de Fukuyama, là. Ça y est, on était dans un monde kantien où il n'y allait plus avoir de problèmes. Tout ça, c'est en train de se péter la gueule, mais de façon monstrueuse. Et on est là, et les gens se disent, mais j'ose pas bouger. Par exemple, j'ai appris, pour des raisons personnelles, mon éditeur m'a signalé que depuis mars, depuis l'attaque sur des États-Unis sur l'Iran, là, eh bien, il n'y avait plus un livre qui se vendait. C'est-à-dire que les gens, vous qui nous écoutez, vous avez tellement la trouille, ils ont tellement réussi à vous foutre la trouille entre l'intelligence artificielle, l'attaque sur l'Iran, etc., que vous n'achetez plus rien, vous êtes là, vous êtes... Et ça veut dire que le rôle de l'État, c'est quand même que les gens cessent d'avoir peur. Or, les États aujourd'hui, ils cherchent à nous faire peur tout le temps.
Alors, pour revenir sur les marchés, souvent les gens ont des questions sur l'or. L'or et l'argent ont été extrêmement sanctionnés vendredi. Et la question, c'est pourquoi ? Alors, la réalité, c'est que probablement les marchés commencent à anticiper la hausse des taux d'intérêt et le fait que les métaux précieux vont en souffrir. Et aussi, ce qui se passe, c'est que les banques centrales ont probablement arrêté d'acheter de l'or, tout simplement parce qu'on est aussi dans cette crise de liquidité.
Et aussi, il y en a deux ou trois des banques centrales, comme la Turquie, qui en ont vendu massivement parce qu'elles n'avaient plus accès. Si l'or baisse, c'est qu'il y a quelqu'un qui est forcé de vendre de l'or. Et ce quelqu'un, c'est probablement quelqu'un qui a des comptes courants déficitaires, etc. Et qui a du mal à... que les banques ne lui prêtent plus. Donc ça peut
être
la Turquie.
Pas mal de gouvernements qui sont obligés de reconstituer leurs stocks, voire alimentaires, énergétiques, et ainsi de suite. Donc alors, on liquide de l'or aussi, pour ces raisons.
Je vous signale qu'il se passe des tas de choses aussi, qu'on vous signale pas dans les journaux, mais qui m'embêtent beaucoup. Par exemple, il paraît que l'acide sulfurique, j'y connais rien, c'est absolument nécessaire dans tous les processus chimiques. J'ai quelqu'un qui suit ça de près, qui m'a signalé que... la moitié de l'acide sulfurique dans le monde était fait, vous ne pouvez pas deviner, par la Chine. Les Chinois ont descendu l'acide la semaine dernière d'arrêter de l'exporter.
C'est pas l'urée ? C'est pas le truc avec l'urée ? Ou c'est un autre truc ?
Je sais pas. Ouais. Donc, ils ont décidé d'arrêter de l'exporter. Mais attends une seconde, si vraiment c'est nécessaire partout, et que les Chinois font la moitié et qu'ils arrêtent de l'exporter, on va avoir des ruptures
d'approvisionnement,
de production. Il y a des choses qu'on ne pourra plus faire.
Oui, et comme on a eu pendant le Covid pour tout un tas d'autres raisons.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit partout se dessiner des ruptures et le marché des actions reste là-haut. Alors, il y a quelque chose qui ne s'additionne pas, quoi.
Alors, concernant le Bitcoin, est-ce que le Bitcoin va rebondir ?
Le Bitcoin, c'est une bête à liquidité. Hein. C'est automatiquement, si j'ose dire, comme on nous a expliqué longtemps que c'était l'or liquide, mais si les gens ont besoin c'était de l'or numérique, mais remarquez que les deux vont pas bien ensemble. C'est-à-dire que quand vous avez besoin d'argent, vous ne vendez pas ce que vous devriez vendre, vous vendez ce que vous pouvez vendre. Il y aura toujours un marché pour l'or et pour le bitcoin. Donc les gens vendent aujourd'hui parce qu'ils sont obligés de vendre.
Moi, je sais que Louis-Vincent avait choisi une paire cuivre long bitcoin court comme transaction pour 2026. Il s'en félicite plutôt.
Il s'en félicite plutôt, c'est ça. C'est ça. Mais,
donc,
parce que,
bon,
mais si vous voyez arriver une crise de liquidité, il est évident que dans une... La crise de liquidité, c'est pour ceux qui connaissent nos quatre cadrans, vous savez, c'est celui qui est en haut à gauche, où vous avez... la seule chose qu'il faut avoir, c'est du cash. Parce que tout le reste, ça pète la gueule.
C'est le pire scénario de stagflation. Et quand on vous dit on arrive en haut à gauche, c'est, vous savez, dans les avions, ils vous disent brace, brace. Eh bien, c'est ça. Et honnêtement, on essaie de se dire non, dites-nous pas qu'on n'est pas en haut à gauche.
Encore cinq minutes, monsieur le bourreau.
Mais je crains que nous n'arrivions en haut à gauche.
Le truc en haut à gauche, c'est le moment. Alors, on commence à avoir des financiateurs donc, comme le grand. Pour revenir au portefeuille de l'Université des Lépines, il tiendra le coup, j'espère en tout cas. Mais voilà un petit peu ce qu'on essaie de vous dire, c'est que on a vécu depuis un certain nombre d'années sur l'illusion qu'en imprimant de l'argent, en ayant des déficits budgétaires, on crée de la richesse. Et c'est faux, on a créé de la dette, une consommation qui n'est pas gagnée, et puis un de ces quatre... Ça va coincer, quoi.
Et enfin, j'aimerais ajouter que si parmi vous, certains d'entre vous ont encore des obligations d'État américaines ou françaises...
Ou anglaises,
qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous nous regardez? Pourquoi vous vivez? Pourquoi vous respirez? Franchement, j'en ai marre de vous.
Parce que vraiment...
Vraiment, on vous aura averti. Je pense que s'il y a une personne qui nous écoute, qui nous a un jour écouté... doté d'un cerveau...
Il s'est dit, en sortant, je vais acheter des obligations françaises, où j'en ai, il a un problème. Quoi.
On est désormais dans un environnement structurellement inflationniste. La Fed n'a pas tenu, depuis 63 mois consécutifs, son objectif d'être de 2%
d'inflation en dessous,
63 mois. Je pense qu'on peut légitimement dire...
Et on va peut-être passer 4% demain, on va voir, parce qu'il y a les chiffres, c'est mercredi, où il y a les chiffres, l'inflation. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque fois que l'inflation aux États-Unis était au-dessus de 4, le marché a baissé de 7% dans les 6 mois qui suivaient, et puis de 30% après, je ne sais plus combien. J'ai vu ça récemment. Donc je me dis, on arrive maintenant à un niveau d'inflation où on ne peut plus dire c'est le pétrole, c'est ceci.
C'est le Strait of Hormuz,
c'est ceci, c'est cela. Il y a un loup. Et tout ça fait que, on est très fatigué.
Non.
On va prendre des vacances. D'ailleurs, je vous signale, quand je vais en août, on ne dira plus rien parce qu'on sera en vacances. Et sauf si tout s'arrête, sauf si tout se pète la gueule. Parce qu'il y a des moments où, quand on voit arriver ces trucs-là, c'est ça qui est embêtant, c'est de réfléchir sur ces choses-là, si vous voulez. C'est que c'est très difficile de réfléchir sur ces choses-là et de rester positif. Mais il y a des tas d'endroits. J'ai un jeune qui est venu me voir hier et qui m'expliquait qu'à la suite de ce que j'avais dit, il avait été faire un tour de 6 ou 9 mois, il a 30 ans, partout en Asie et tout. Il m'a dit, en Asie, ça marche très très bien, les gens sont très optimistes, etc. Donc, nous, on va ramasser des claques, mais eux, ils ne vont pas en ramasser.
La véritable question aujourd'hui, celle sur laquelle tous les marchés fonctionnent, et on le voit, et là on en a suffisamment parlé de cette introduction en bourse, c'est que, quelque part, l'intelligence artificielle introduirait des gains de productivité tels qu'on aurait cette espèce de bond en avant. Mais qu'est-ce qui se passe si les gains de productivité ne sont pas au rendez-vous? Parce que, entendez-moi bien, j'utilise l'intelligence artificielle, j'adore, ça m'aide pour
et
un nombre de trucs.
Aujourd'hui, il la donne gratuitement.
Voilà, mais ça m'aide pour un nombre de trucs incroyables. On a pris Claude là-haut avec Léonard, on peut faire des résumés, des trucs, c'est incroyable, ça nous sort des papiers pour peu qu'on demande bien, j'adore. Mais quel est le gain de productivité réel pour l'économie globale? C'est ça la question.
Surtout si vous avez énormément besoin d'électricité et tout. Ce que j'essaie de dire aux gens, c'est que depuis 15-20 ans, ceux qui dominent le monde, c'est ce que j'appelle l'ingénierie financière, vous savez, les gars qui ont fait Polytechnique et qui vont faire du trading à Londres dans les salles des marchés, là, il est temps maintenant qu'on remplace les ingénieurs financiers par des ingénieurs tout court pour nous faire des trucs comme de l'électricité, des routes, des hôpitaux, tout ça. Parce que l'ingénierie financière, ça n'a pas arrêté de couper dans la viande, soi-disant pour nous enlever du gras, quoi. Et maintenant, on n'a plus rien. Les hôpitaux ne marchent plus, plus rien ne marche. Donc, et pour ça, il faut que la base reprenne le pouvoir sur l'aristocratie financière.
Alors, pour ceux qui suivent l'Institut des Libertés, je veux vous renvoyer aussi un article que Charles a commis cette semaine sur, quelque part, la trappe à dette, hein, qui est quelque chose dont nous vous parlons souvent ici, qui est le fait que, quelque part, la croissance que l'on génère aujourd'hui en France est plus basse que le coût de l'emprunt que l'on doit payer. Donc, toute richesse créée dans ce pays va au remboursement, quelque part, de la dette.
C'est
donc
une idée
pas
très
à l'extérieur.
C'est une idée très compliquée. C'est-à-dire que si vous empruntez à 5 et que vous investissez à 2, au bout d'un certain temps, vous faites faillite. Tu vois, c'est pas possible.
C'est pas possible. Et même, ça n'est pas souhaitable, parce que ça veut dire que vous placez mal votre argent. Encore une fois, on est dans la parabole des talons que Charles adore utiliser. Mais il est vrai que si votre rentabilité est de 2 alors que votre capital vous coûte 5, vous êtes un peu crétin. Restez couché.
Surtout, n'allez pas piquer le pognon de celui qui fait 5 pour le donner à celui qui fait 2. On sait ce qu'on fait avec les impôts. Donc, on est... Si vous prenez... J'ai écrit un livre sur les évangiles et l'économie que vous pouvez retrouver, qui s'appelle « Un libéral nommé Jésus ». Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on fait exactement le contraire de ce que le Christ recommande, c'est-à-dire qu'on ne respecte pas le droit de propriété, on taxe ceux qui bossent pour filer du pognon à ceux qui ne bossent pas. On fait toutes les erreurs, si vous voulez, que le Christ condamne. Quoi. C'est tout à fait extraordinaire. Et ça, c'est au nom de la générosité. Mais en fait, si je devais résumer ce que j'essaye de penser, je dis, l'Occident a été dominé par la pensée de saint Thomas d'Aquin pendant, qui était une pensée intelligente, complexe, et qui nous a produit, et puis ça a été remplacé par une pensée complètement conne qui s'appelait Marx à partir de 1830-1840, et on voit ça après, un siècle après, remplacer saint Thomas d'Aquin par Marx, nos économies et nos sociétés s'effondrent.
Alors, vous, en tant que petit épargnant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bon, alors déjà, essayez de protéger votre épargne. Essayez d'avoir une réflexion aussi sur la possibilité d'une captation de vos biens. Encore une fois, je veux vous envoyer comme système de pensée à M. Mahdavi à New York et le fait que l'immobilier ait été extrêmement taxé chez lui, et c'est probablement ce qui risque de nous pendre au nez parce que...
Et il va bloquer les loyers complètement.
Et bloquer les loyers, donc...
Et taxer l'immobilier vide.
Voilà. Donc, essayez de réfléchir votre épargne en dehors de, quelque part...
De l'immobilier.
De ce qui a pu être au travers du temps. On en a parlé autrefois, on en a parlé avec Charles, par exemple, l'autre fois, acheter des murs en tant que notable et les mettre en magasin, en gestion et ainsi de suite, était une forme rentable d'avoir
un bon revenu.
Ça n'est plus le cas aujourd'hui parce que tout simplement, l'intermédiaire va ne plus être. Donc, ce qui était avant la petite droguerie de quartier qui louait ses murs à un notable et qui lui-même en tirait du bien, ne va plus être des immeubles de rapport, ne vont plus avoir de rapport. Et si aujourd'hui on se met à plafonner dans les villes, parce qu'on a tout un tas de gouvernements de gauche se mettent à plafonner les loyers, vous en tant que propriétaire, vous ne tirerez plus de rentabilité de vos biens. Donc essayez peut-être de penser votre investissement de manière différente. Essayez de penser à la bourse pour ça. C'est une façon, encore une fois, d'avoir une liquidité, de voter avec vos pieds et de vous tenir en dehors de toute captation étatique et d'avoir la plus grande des libertés. C'est celle qu'on donne toujours, qui est celle du « fuck you money », qui est d'avoir la liberté de vous dire « j'en ai rien à foutre, j'ai mon argent avec moi et je peux partir quand je veux avec ». Voilà. Et ça, c'est fondamental.
C'est complètement fondamental. C'est-à-dire, j'ai un de mes amis, encore une fois, que je connais très bien, qui avait 15 appartements à Paris, parce qu'il avait très bien réussi dans la vie, etc. Il ne reste plus qu'un. Il les a tous vendus. Et c'est pas le genre de gars, si vous voulez, qui a besoin des conseils de l'Institut des Libertés. Tu vois ce que je veux dire ? Il s'est débrouillé tout seul. Donc, sortez de cette obsession de l'immobilier.
Alors, avoir un bien immobilier pour y vivre est une chose. Avoir un bien immobilier pour la spéculation aujourd'hui, dans les temps dans lesquels nous rentrons, avec un monde qui va
s'appauvrir,
s'amoindrir, comme une peau de chagrin, se rabougrir sur lui-même, vraiment, ouvrez les écoutilles, pensez en dehors de la boîte et essayez de lire des choses différentes, essayez de voir l'université de l'épargne, essayez de penser à placer votre capital dans des sociétés comme Air Liquide, si vous voulez, au travers d'un PEA, qui vont chercher la croissance en Asie, ou si vous voulez le faire vous-même, au travers de nos services, comme l'université de l'épargne, qui vous permet, au travers d'ETF et de placements diversifiés, d'avoir accès, quelque part, à une liberté et beaucoup plus de souplesse dans le futur, parce que je pense qu'on va vers des temps un peu plus difficiles.
C'est-à-dire que les actifs physiques que vous avez dans un pays,
vont être la proie de tout le...
Imaginez, monsieur Mélenchon est élu, ben je crains que vos biens immobiliers soient parmi les premiers à se faire masser. Regardez le monsieur Guillaume à Paris, il a décidé que maintenant les cantines seraient gratuites à Paris. Bon,
quelqu'un va payer quelque part, on va remettre les taxes d'habitation.
C'est l'immobilier qui va payer les cantines à Paris, c'est évident quoi.
Je veux dire, de toute façon, qui peut payer aujourd'hui? On sait que 50% des habitants en France ne payent pas l'impôt sur les revenus. Donc, ça va être nous, avec notre société, qui payons notre bonne TVA, notre bonne CSG.
Les 50%, ils payent la TVA, ils payent la CSG.
Oui, mais je veux dire, nous, en tant que société, après moi, je reçois mes dividendes, ils sont imposés à 30%. Ensuite, sur mes salaires aussi, je vais payer machin truc. Et à la fin, c'est toujours les mêmes qui payent. Hein. C'est Gilles qui n'a plus de croquettes.
Gilles, mais s'en fout, il viendra à la maison et on lui donnera du rôti de bœuf. Voilà.
Les restes de côte de porc. Voilà.
Voilà. Donc c'est pas du tout pour vous alarmer, mais nous arrivons dans des temps qui risquent d'être agités.
Voilà. J'espère que ce petit tour de revue de presse de crise de liquidité et d'introduction en bourse démoniaque vous auront intéressé. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous. Si vous avez des questions aussi, on y répondra. Et on vous dit à très bientôt.
Merci beaucoup.